toujours un honneur de lui parler encore plus quand c'est en personne. Salut Mark Griffin.
Bon matin, ouais, bon matin. Ben oui, de l'ambiance en studio.
Ben oui, toujours.
En plus, on a des belles courses aux séries, dans l'américaine particulièrement. C'est très serré. Victoire des Jays hier, 6-5. Étonnamment, moi, ce qui a retenu mon attention est un jeu qui, au final, n'aura pas eu d'impact. Mais ça m'a surpris le circuit controversé qu'on l'accorde. Je sais pas si tu as vu la séquence.
Ben oui.
Nathan Lucas, il saute à la clôture pour attraper. Le partisan passe devant lui avec son gant.
Bonne chance.
On va à la reprise. As-tu été surpris qu'on renverse pas la décision?
Ben, écoute, moi, là, ça fait 30 ans que je suis analyste baseball. J'ai joué 10 ans auparavant. J'avais jamais vu une décision où on donne l'interférence, mais qu'on accorde le coup sûr ou l'accorde le coup de circuit dans ce cas-ci.
Bizarre, hein?
Moi, j'ai jamais vu ça. Et si puis on a le bénéfice, évidemment, d'avoir les reprises dans le baseball d'aujourd'hui. Tu vois clairement que Lucas...
Il est là.
Donc, est-ce que c'était si évident que ça que la balle allait passer par-dessus la clôture? Pas du tout. Tu sais, je veux dire... Alors, tu vois que le partisan a son bras par-dessus la clôture. Est-ce que la balle va vraiment aller par-dessus? On n'est pas encore sûr. Mais est-ce que Lucas est là? Oui. Fait que ça fait pas de sens. Honnêtement, ça fait pas de sens. Puis j'ai regardé ça à plusieurs reprises. Je trouvais ça très bizarre comme décision de la part du baseball.
Est-ce qu'on prend en considération, dans un cas comme celui-là, l'endroit où ça se passe? Je te donne un exemple. T'es au Yankee Stadium. Les Yankees sont en défensive. Un partisan des Yankees vient faire de l'interférence. Tu dis, ben, too bad, c'est ton équipe. Ouais. Comme c'est le cas hier. Mais c'est l'inverse. C'est les Blue Jays qui sont
non,
en défensive.
Ça devrait pas.
Parce qu'au final, le partisan a une allégeance dans les gradins, là.
Oui, absolument. Mais ça devrait pas avoir un impact. Puis vous savez, maintenant, on a toutes les statistiques possibles. C'est que si la balle est frappée à tant de milles à l'heure, elle va franchir tant de distance. Mm-hmm. C'est un circuit dans un stade sur 30, par exemple. Mais là, c'est un circuit dans aucun stade sur 30, mais on l'accorde.
C'est incroyable.
Fait que c'est un peu spécial. Mais vous savez que c'est les dimensions, c'est les mêmes dimensions que le Yankee Stadium, hein, parce que c'est le site d'entraînement des Yankees. Ah. Et on a voulu copier, si vous voulez. De plus en plus d'équipes font ça. Là. Donc, les distances du Yankee Stadium. Donc,
comme on dit en anglais, c'est un short porch au deuxième. Là. C'est pas loin.
Au champ droit. Tu peux quasiment l'appeler le deuxième, Gilbert.
Non, c'est vraiment pas loin.
Au champ droit, exactement, c'est ça.
Mais on tire autant d'angle de caméra, vu que c'est le petit stade.
Bon, ben c'est ça. Ça, là, ça expose le problème de deux équipes qui jouent dans des stades de ligue mineure dans le baseball. On a ça, évidemment, à Sacramento avec les A's et avec les Rays. Puis ça, ça paraît pas bien, les gars, on va se le dire. Là, c'est un autre dossier, mais ça reste que, tu sais, d'avoir deux équipes qui jouent dans des stades de ligue mineure, ben ça donne des situations comme ça. Puis, tu sais, il y a eu deux controverses un peu hier, deux reprises sur des coups de circuit. On n'a pas les caméras nécessaires par rapport aux autres stades du baseball majeur.
En séries éliminatoires, je trouve que le baseball majeur est le sport qui change le plus par rapport à la saison régulière. En saison régulière, tu veux gagner, bonne rotation de partant, t'as des bonnes chances. En série, je trouve que le personnel de releveur prend une place énorme dans les succès d'une équipe. La relève des Jays, pour ma part, c'est le gros point d'interrogation. On est sur le point de se qualifier, là, c'est presque fait. Mais la relève me laisse encore sur mon appétit. Comment tu trouves les performances de Jeff Hoffman? Peut-il faire le travail quand ça va compter tantôt?
Moi, c'est la perte de vélocité qui me fait peur. T'sais, il lançait 97-98 en début de saison, ça allait bien. Là, c'est du 94-95. Là, vous allez dire, les gars, c'est 2-3 000 à l'heure. C'est une énorme différence lorsque tu arrives. Tu sais, une rapide un peu haute, puis comme frappeur, tu dis, je me lance pas. Puis là, à 97, elle est déjà passée. À 94, tu es capable d'y toucher un peu. Tu sais, fausse balle, tu restes en vie. Puis là, à un moment donné, il échappe une courbe, puis paf, tu frappes la balle. C'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là. Par contre, ce qui me rassure un peu, c'est qu'il n'y a pas une équipe présentement. Parlez aux Dodgers de Los Angeles, la relève, ça va pas bien. Parlez aux Yankees de New York, ça va pas super bien. Donc, partout ailleurs, on a des défis en relève. Mais écoute, moi, c'est sûr que dans ce cas-ci, c'est l'utilisation de tes releveurs qui va être important. Je sais que John Schneider utilise beaucoup le fameux livre que personne n'a jamais vu, le gaucher-gaucher, droitier-droitier. Mais tu as quand même un certain potentiel de voir les gars faire le travail. Ce qui va faire en sorte que si tu commences les séries demain matin puis que ta relève est comme so-so, ben tu vas peut-être arriver puis soit étirer ton partant un petit peu plus d'une manche ou va chercher deux retraites plus de ton partant. Puis là, tu vas avoir des gars comme Lauer qui vont être disponibles. Tu vas avoir des gars probablement comme Berrios qui ne sera pas partant en série, selon moi, qui vont peut-être aller chercher ces deux, trois, quatre retraites plus, tu sais, mettons en septième manche. Puis là, ben tu vas avec le gars. Parce que souvent, tu as peut-être juste un ou deux qui vont très, très, très bien. Tu sais, que ce soit Dominguez, que ce soit Varland, que ce soit des gars de même. Puis là, tu dis, ben écoute, Mais là, c'est 27 retraits, un match de baseball. Puis c'est là, en série, comme tu l'as mentionné, où faut que chaque retrait compte.
Ben oui.
Si tu vas te chercher deux, trois retraits par des gars un peu, entre guillemets, inattendus, ben prends-les. Puis là, à ce moment-là, ben tu vas aller pouvoir avoir tes gars de fin de match là, qui vont pouvoir faire le travail.
La raison pour laquelle je voulais t'entendre sur les releveurs, c'est parce qu'un peu plus tôt cette semaine, on a vu le jeune Trey Savage. Et je trouve, de par sa stature, de par son gabarit, de par l'étoffe qu'il a sur sa balle, il pourrait venir donner un coup de main au partant avec un bras canon en relève et une balle fronde. Mon Dieu, qui casse, ça n'a pas de bon sens. Il lâche tellement la balle haute que la balle a un mouvement spectaculaire lorsqu'elle arrive au frappeur. Verrais-tu Savage en relève en
Absolument,
série?
Absolument, sans aucun doute. Puis d'ailleurs, on l'a fait lancer en relève un petit peu au niveau des ligues mineures. On voulait voir comment il allait réagir à tout ça. Il a 24 ans. Puis tu l'as dit, c'est le gars qui lance où la balle quitte la main le plus haut de tout le baseball. C'est pas le plus grand, mais dans sa mécanique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça, à l'œil du frappeur, c'est intéressant parce que vous savez, lorsque tu affrontes un frappeur, c'est-à-dire un lanceur du baseball majeur, les frappeurs ont toutes sortes de façons de regarder, de pouvoir voir cette balle-là sortir de la main. Alors, c'est pour ça que la plupart, 90-95% des lanceurs, la balle va sortir soit près de la casquette ou soit, dépendamment, s'il met son gant devant. Donc, il faut que tu focuses sur un endroit parce qu'à 90 000 à l'heure, à 60 pieds 6 pouces, ton temps de réaction est 0,4 secondes.
Et c'est bon.
Alors, il faut que tu trouves un moyen de voir la balle sortir. Alors, lui, c'est encore plus haut. Puis, alors, tu as un fameux batter's eye qu'on appelle dans les stades de baseball. Vous savez qu'en arrière, au champ centre, il n'y a jamais de spectateur hein, parce qu'on veut que bon.
Ouais.
Mais là, tu vois la balle sortir. Puis en plus, avec la balle fronde qui tombe comme elle tombe, écoute, tu as l'impression que la balle n'est jamais dans la zone des prises, mais que là, t'es obligé de te défendre. Puis là, ben c'est là qu'il connaît le succès. Écoute, contre les Rays, t'sais, Brandon Lau, il a tellement mal paru. Voilà un gars qui a de l'expérience dans le baseball. Puis Savage le fait paraître comme
Il avait l'air à s'élancer un pied par-dessus la balle.
Exact.
C'était effrayant.
Il ratait la balle de beaucoup.
Ah oui.
Oui, pour répondre à ta question, absolument. Puis il va faire partie des solutions, probablement. Puis tu sais, en série, il faut que tu aies avec tes meilleurs.
Ouais.
Fait que tu sois jeune ou que tu aies l'expérience, c'est toi qui vas jouer dans les moments cruciaux.
Ben, je trouve quasiment que c'est un avantage de ne pas avoir l'expérience. Parce que les adversaires t'ont pas vu.
Ils n'ont pas de livre.
Ils n'ont pas de livre sur toi, ils n'ont pas de vidéo sur toi.
Maintenant, ils en ont, parce que vous savez que... bon. Mais tu l'as pas vu live. Là,
mais tu l'as pas vu en direct, toi. T'as bien beau regarder des têtes.
Exactement. Puis tu sais, la balle fronde, là, puis t'as beau savoir qu'elle s'en vient, elle va être dure à frapper quand même. Fait que ça va dépendre de son caractère, de son état. Est-ce qu'il va, lorsqu'il va arriver sur la grande scène... Tu sais, des séries avec 42 000 spectateurs, c'était probablement la meilleure chose qui devait lui arriver, c'est de commencer un match à Tampa. Tu sais, t'as 10-12 000 spectateurs, c'est un stade des ligues mineures. Tu comprends, il a pu être un peu plus relax à ce niveau-là.
Mais en même temps, il a prouvé son caractère, parce que ses deux premiers coups sûrs, un point marqué, ça ne l'a pas ébranlé.
Ah non, mais
tout,
il y a 24 ans, là. Tu sais, c'est pas un gars qui arrive à 20 ans puis il arrive de les écoles secondaires. Là. Il y a quand même.
À quel point le fameux pitch count, là, ça compte vraiment? Parce que dans le passé, dans les années passées, on a vu des gérants retirer leur lanceur quand ils étaient en plein contrôle de le moyen, puis après ça, les roues ont débarqué de la wagon complètement avec la relève. On hésite à laisser les gars. T'sais, plus longtemps, même si les gars connaissent un bon match parce qu'on y va, on va jouer le livre, on va le sortir, il va rester frais et dispo, on va y aller avec la relève.
On l'a fait avec Berrios, il y a une couple d'années.
On se fait fourrer avec
les
ça.
Les statistiques avancées, Gilbert.
Ah, ça, j'aime ça, ça tellement.
C'est le département, là, c'est les gars à lunettes en arrière avec les cravates qui disent « Hey, lui, c'est temps de lancer, c'est deux tours au bâton, pas plus. » Parce qu'au troisième tour, statistiquement...
Même si le gars est là, puis même si le gars...
Exact, c'est ça le problème. Écoute, ça a été le problème. Blake Snell,
ça l'a sorti de Tampa Bay.
Ça n'a pas de bon sens.
En pleine série mondiale.
Il faut, tu sais, le baseball, je sais qu'il y a une vieille garde. Là, la vieille garde dit, hey, tes yeux, ils disent quoi? Le gars, il dit quoi? Parce que ça se peut qu'aujourd'hui, là, tu sois dominant.
Absolument.
Comme ça se peut qu'aujourd'hui,
tu l'as pas pantoute.
Ouais. Alors, moi, je suis bien d'accord. Moi, je pense un hybride. Va chercher de l'information. Va chercher tout ce que tu peux comme statistique avancée. Parfait. Mais une fois que le match commence, tu sais...
Le gars est en plein contrôle. On l'a vu dans le passé. Là. Le gars est en plein contrôle de la game.
Écoute, Gilbert,
c'est du match.
Gilbert, t'as juste à regarder hier. Shohei Ohtani, pas donné de coup sûr après 5 manches. Dave Roberts, le
That's
crochet.
That's
les Phillies marquent 6 points à manche suivante.
Mais moi, là je vais y aller...
Read the room, hein,
ouais,
comme dirait.
Je vais y aller à contre-courant un peu dans l'argument. Quand t'arrives en séries éliminatoires, c'est connu, les lanceurs, on le remarque dans la vélocité. Souvent, là, ils vont chercher un ou 2 000 à l'heure de plus. Ils poussent encore plus. Ça en demande encore plus. Fait que les gérants sont prudents de dire, ouais, là, Je les tire-tu en sixième ou cinq manches tassées? Il m'a donné ce qu'il avait à donner. Mm. Parce que c'est sûr que ton lanceur, en pleine possession de ses moyens, il veut y retourner. Tu veux le protéger, puis tu veux faire le bon move aussi. Est-ce qu'on l'étire un petit peu trop? C'est quand même pas si facile que ça, de ménager ça, là, de savoir dans quelle direction aller.
C'est juste que d'un fois, la recette est établie. Toi, tu lances cinq manches, puis après ça, lui lance la 6, lui lance la 7, lui lance la 8. D'un fois, ça manque un peu de feel. Je trouve que c'est trop l'ordinateur qui décide.
Ben, exact, exact. Puis moi, je pense, si on a parlé tantôt des 27 retraits, ben, si ton lanceur partant peut t'en chercher 2-3 de plus, parce que ça devient. L'exemple de Ohtani hier est parfait. Je veux dire, il lance 5 manches.
Il lance encore à 99 000 à l'heure, 98.
Puis encore battu un autre record, soit dit en passant, hein, parce que 50 coups de circuit pour Ohtani, puis 50 retraits sur des prises comme lanceur dans une saison. Évidemment, vous comprenez que ça ne s'est jamais fait.
Ouais.
Même pas le Babe?
Ben non, parce que le Babe là, lorsqu'il jouait, là, il était plus lanceur, puis après ça, il était plus frappeur.
Oui.
Il n'a pas vraiment combiné tout à fait les deux en même temps.
Il
n'a pas frappé 50 coups de circuit lorsqu'il était lanceur régulier. Donc, Ohtani est en train de réécrire tout ça. Là.
Exceptionnel, honnêtement, Shohei Ohtani. Cal Raleigh aussi, saison absolument exceptionnelle. 55 et 56 l'année dernière. Pour un receveur, moi, ça me rentre pas dans la tête.
C'est phénoménal.
C'est tellement taxant physiquement derrière le marbre d'être capable d'avoir la puissance au bâton après, ça m'impressionne.
Il l'utilise vraiment. Là, c'est lui le receveur. C'est pas comme s'il était frappeur de choix très souvent. Là, on l'utilise en arrière de la plaque plus souvent qu'à son tour. C'est impressionnant.
Puis, tu sais, faut voir des receveurs quotidiennement pour réaliser que physiquement,
Il fait chaud en arrière.
Non, mais je t'ai accroupi. Tu bloques des balles. C'est vraiment difficile. C'est phénoménal. Alors, lui, il le fait. Il est frappeur ambidextre. Imagine-toi, là, hier, il a égalé le record de Ken Griffey Jr. Tu sais, Ken Griffey Jr., premièrement, c'était l'idole d'à peu près toute une génération. Mm-hmm. Puissance, Seattle. Puis là, ben, c'est Cal Raleigh. Même lui, il disait hier, comment mon nom fait pour être à côté de Ken Griffey Jr. Ou évidemment, il a battu le record aussi de coups de circuit pour un frappeur ambidextre. Alors, écoute, extraordinaire. C'est une saison... on est chanceux de voir ça, là, parce que je suis pas sûr qu'on va voir ça.
Cinq fois cette année, il a frappé des coups de circuit des deux bords de la plate.
Mm-hmm.
C'est quelque chose, hein? Cinq fois.
Tu sais, puis souvent, tu as de la puissance plus d'un côté que de l'autre. Puis lui, c'est de la puissance des deux bords. Là. C'est, je veux dire, c'est
Eddie
vraiment...
Murray. Tu te rappelles de Eddie Murray?
Écoute, là, je vais me vieillir, mais moi, j'ai joué avec Eddie Murray.
Ben, c'est ça, mais t'es vieux, t'es comme moi, t'es comme moi, c'est ça, exactement.
Ah, c'est bon, mais tu sais, c'est fascinant, moi, cette année, je trouve qu'on en frappe plus des circuits. Je sais pas si c'est parce qu'on suit plus ces courses-là, mais Raleigh est rendu à 56, Schwarber est à 53, on a parlé de Tony qui est à 50, le juge est à 48, Suarez a ralenti, mais il est à 45, Caminero est à 44, tu sais, il y a comme une recrudescence de puissance quand même dans le baseball.
La puissance, la puissance pure est là, mais... La façon dont on va frapper dans le baseball moderne est différent que par le passé. Je vous explique rapidement. Avant, tu avais un compte de deux prises, tu étais moins en mode attaque, tu étais plus en mode contact. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans le baseball, ça ne dérange pas les retraits sur des prises. Fait que ton approche à deux prises, c'est que je vais dévisser quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais frapper la balle. Fait que regarde le nombre de frappeurs de 300 que tu as dans le baseball majeur. On va peut-être en avoir 6 cette année, peut-être 7. C'est pas beaucoup, là, des frappeurs de 300. Parce que la moyenne au bâton n'est plus la statistique qu'on a à l'époque.
La fameuse protège ton marbre, protège ton marbre.
Louis Saraz, l'année passée, il a tenu 400 longtemps dans la saison.
Ouais, là. Ouais. Mais c'est un frappeur de simple. Lui, Arez, là, si tu regardes sa moyenne de présence sur les buts, là, ben, tu regardes sa moyenne au bâton. Il va frapper 330, puis il va une moyenne de présence sur les buts de 335.
Mm-hmm.
Pas de but sur balle, pas de. Tu comprends? C'est pour ça que le fameux OPS, qu'on appelle nous autres à RDS le MPP, qui est la moyenne de présence et de puissance, je trouve qu'elle indique un peu plus l'efficacité d'un joueur. Si tu as une bonne moyenne de présence sur les buts, tu as une coupe de double, petit circuit, tu vas avoir un MPP ou un OPS de 800. La moyenne du baseball est à 720. Fait que ça, je trouve que ça remplaçait un petit peu la moyenne au bâton. Ce qui fait qu'un joueur qui frappe 260, regarde un gars comme Schwarber, tu frappes 250, 260 ou même à 230. Les gens vont dire à l'époque, 230, c'est pas un bon frappeur. Oui, mais t'en mets 55 l'autre bord.
Ouais, c'est comme Joey Gallo, une coupe d'année.
Ça fait des points, ça. Ouais. Tu mets des points automatiquement sur le tableau.
Alors que le gars qui est premier frappeur, il a peut-être pas moins de puissance, il en frappe peut-être 10, 12 circuits. Puis là, tu vas dire, mais il y a quand même un MPP lui aussi de 800 parce que sa moyenne de présence sur les buts est de 400. Mm-hmm. Fait que, c'est pour ça que je trouve que ça évalue un petit peu mieux la situation dans une équipe.
Marc, je suis curieux de t'entendre parce que là, la course aux séries est très serrée. Puis on voit une équipe comme les Red Sox qui glisse présentement. Les Yankees, ça va, mais ça vient. C'est qui, selon toi, les favoris? pour se rendre jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est bien ouvert dans les deux associations.
En fait, exact. Cette année, je trouve qu'il n'y a pas une équipe. Il y a peut-être les Phillies là, qui sont en train de donner une leçon aux Dodgers. C'est peut-être que, mais là, ils ont perdu Zach Wheeler, puis là, Trey Turner est blessé. Fait que chaque équipe a des trous. Il n'y a pas une équipe en ce moment qu'on va dire. L'année passée, on pouvait voir que les Dodgers s'en allaient, tu sais, étaient en mission. Là, cette année, là, tu sais, les Red Sox vont pas bien, mais je suis pas inquiet là, qu'ils vont faire les séries, là, parce que regarde les équipes qui suivent, là, c'est les Guardians, ils ont même pas un différentiel qui est positif, ça peut être un peu plus difficile.
Ils sont 9-1 leurs 10 derniers, ils sont peut-être sur une bulle en ce moment. Là. Ça va peut-être s'estomper, les Guardians.
Oui, exact. Parce que tu sais, le différentiel, c'est pas une statistique là, qui fait que bon, ça va déterminer oui ou non, mais si tu es encore négatif avec à 150 matchs, c'est parce que c'est pas évident. Mais tout ça pour dire que c'est la beauté des séries en 2025, c'est écoute, rentre en série, puis après ça, là, tu as une chance. Là. Honnêtement, tu as une chance cette année.
Mais c'est pour ça que moi, j'aime le nouveau format. Parce qu'avant, c'était compliqué de faire les séries. Maintenant, tu peux rentrer par la porte d'en arrière, en tout respect. Là, mais tu peux rentrer comme équipe repêchée loin. Puis
ça donne de l'espoir aux partisans.
Tu peux battre tout le monde. Ça donne de l'espoir aux partisans, ben exactement.
Oui, puis là, tu as le fameux 2-2-3. Puis là, tu as les équipes qui vont avoir leurs 5 jours de congé. Puis là, comment tu vas faire en sorte que tu vas garder tes gars frais et dispo. Parce que pendant quelques années, ceux qui avaient le fameux bail, ça allait mal en première ronde. Après ça, c'est un 3-5 seulement.
Tu perds ton timing, c'est sûr.
Exact. Fait que ça, c'est... Mais en tout cas, toujours est-il que c'est effectivement très, très, très ouvert cette année.
Rapidement, parce que le temps presse, mais pendant le congé supplémentaire, ça pourrait aider Bo Bichette, parce qu'on le sait, il s'est blessé. On en a même parlé ensemble la semaine dernière. Là, c'est connu.
Il pourrait-tu revenir pour les playoffs?
Il est out pour le reste de la saison. Ce qui, à mon sens, c'est zéro une surprise. Là. Hier, ça a été annoncé en grande pompe. Moi, je m'y attendais. Mais en série, s'il peut être là, ça fait toute la différence.
Ben oui. Les Blue Jays ont une bien meilleure équipe avec Bo Bichette. Tu mènes pas le baseball majeur pour le nombre de circuits de doubles. Ça que tu as un impact en attaque, là, c'est clair. Mais on peut quand même voir que défensivement, lorsqu'un Jimenez joue à l'arrêt court, puis un Clement au deuxième, c'est assez solide quand même là, comme défense. Tu sais, Bichette est un bon joueur d'arrêt court en défense, mais je veux dire, c'est pas sa force. Lui, sa force, c'est de frapper des coups sûrs. Puis c'est important. Puis on le voit avec les Blue Jays actuellement. T'sais, un petit peu plus de punch à l'attaque, ça nuirait pas. Donc, Bichette va être de retour, comme Alvarez va être de retour avec, par exemple, les Astros de Houston. Il y a beaucoup de joueurs blessés. Trey Turner, on espère qu'il sera de retour aussi pour les Phillies. Il y a beaucoup de blessés présentement qui pourrait changer la donne là, en début de série. Là.
Santander, est-ce qu'on pourrait avoir un rôle important?
Non, tu peux pas rater toute pratiquement une saison complète puis d'arriver. Écoute, Kyle Schwarber l'a fait, rappelez-vous, avec les Cubs.
Ouais.
Mais en tout cas, je m'attends pas à voir un Santander cette année du côté des Blue Jays. S'il arrive, tu sais, il faut que tu envoies des lancers. Tu parlais de timing tantôt, Gilbert. Là. Hey, tu manques tout ce temps-là, c'est pas évident de revenir. Mais ceci étant dit, on ne sait jamais.
Puis même en santé au début de la saison, ça a été très décevant.
Ouais. Mais le talent est là, la puissance est là.
Tu parlais de la casquette à Marc tantôt. Garde-tu un œil sur les séries des Capitales?
Ben oui, moi, les Capitales, tu sais, Patrick Scalabrini, c'est un ami personnel. Michel Laplante, c'est une gang que je connais très, très bien. Et ils s'en vont pour une quatrième... ou un quatrième championnat de suite. Ça a mal commencé hier, mais c'est un 3-5. Ouais. Alors, on va suivre ça de près.
Effectivement, ils ont perdu le premier match de la finale hier, mais ils peuvent revenir.
C'est un 3-5.
Exact. Ils ont encore du temps. Hey, Marc, merci de te déplacer.
Merci, Marc.
Merci, les gars.
Vraiment.